Les parts actualité. Bonjour à vous toutes et vous tous, comment allez-vous? Clotilde Seille en votre compagnie sur les ondes de Canal M pour vous présenter ces parts actualité du 9 février 2017. Et les titres aujourd'hui? Les optométristes pourraient bientôt jouer un rôle accru dans le dépistage de la rétinopathie diabétique. 4 chiens d'assistance pour autant de vétérans du Québec. La SAAQ en consultation pour la sécurité routière au Québec. Diplomation encore difficile pour les élèves handicapés. Et des pompiers qui vont monter 1125 marches en tenue pour le petit Liam. Et aussi la solidarité toujours au cœur de l'action du Québec en Haïti. 2 entrevues aujourd'hui. D'abord avec Omar Lacheb, ce monsieur qui poursuit l'Université de Montréal pour manque d'accessibilité. Et aussi avec Karine Villeneuve de l'Association québécoise des personnes de petite taille. C'est la suite d'un papier paru dans la presse et que je vous avais lu d'ailleurs il y a quelques jours. Les optométristes appelés à jouer un rôle accru, écrit Philippe Mercure. Les optométristes pourraient bientôt jouer un rôle accru dans le dépistage de la rétinopathie diabétique, la principale cause de cécité chez les gens de moins de 60 ans. Un nouveau guide de pratique rédigé conjointement par l'Association des optométristes du Québec et le Collège des médecins recommande en effet que les médecins de famille dirigent leurs patients diabétiques vers les optométristes pour dépister cette maladie. Selon nos informations, ce guide est rédigé mais doit être approuvé par l'Office des professions du Québec. Le processus est cependant bloqué par la grève des juristes de l'État. Cette initiative survient alors que certains médecins veulent déployer un réseau provincial de caméras pour faire du dépistage à distance de la rétinopathie chez les patients diabétiques. Ces caméras prendraient des photos des yeux des patients à risque qui seraient ensuite examinés à distance par des professionnels de la santé. Un tel programme est déjà en place pour dépister la rétinopathie en région éloignée, mais des projets pilotes ont aussi été lancés à Montréal. Les optométristes s'opposent à ce que cette technique s'étende. Pour les populations éloignées qui vivent là où il n'y a pas d'ophtalmologiste ni d'optométriste, les caméras, c'est beaucoup mieux que rien. Mais en plein centre-ville de Montréal, il n'y a aucun besoin pour ça, tranche Langis Michaud, le président de l'Ordre des optométristes du Québec, en entrevue avec la presse. L'Association médicale canadienne recommande que les diabétiques soient suivis régulièrement pour détecter la rétinopathie, une maladie sournoise qui ne présente souvent aucun symptôme jusqu'à ce que le patient soit touché par des troubles de vision. Actuellement, les médecins de famille dirigent ces patients vers les ophtalmologistes qui ne peuvent suivre tous les cas, étant donné l'explosion du diabète parmi la population. Cela explique le débat entre ceux qui jugent que le dépistage devrait se faire par caméra et ceux qui croient que les optométristes devraient s'en charger. Les besoins sont grands, il y a encore beaucoup à faire, mais cela commence par des gestes comme la contribution de 60 000 $ effectuée conjointement par la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne, Mme Anne Miles Brown, ainsi que le Mingo McEwen Fund au programme de chiens d'assistance pour l'ESPT de Wounded Warriors Canada, qu'a annoncé le 6 février la Fondation de Montréal. Alors, cette contribution permettra à 4 vétérans de la province du Québec souffrant de l'état de stress post-traumatique, le SPT, de bénéficier d'un chien d'assistance. Ce n'est sans doute pas un aboutissement, mais certainement un pas important sur cette route où chaque pas compte et qui mène à la satisfaction des besoins de tous nos vétérans aux prises avec ce terrible problème. Ces chiens spécifiquement entraînés ont un impact significatif dans la vie de nos héros canadiens et les aident à surmonter plusieurs de leurs défis quotidiens. À la conférence de presse à l'hôpital Sainte-Anne, lundi, Julie Jolicoeur, une paramédique d'Ottawa dont l'état de stress post-traumatique avait fait d'elle une autre personne, une personne brisée, jusqu'à ce qu'elle puisse compter sur son fidèle chien d'assistance, Dylan, en a témoigné éloquemment. Tous les chiens certifiés et financés par Wounded Warriors Canada sont remis aux clients approuvés sans aucun frais. Les professionnels travaillent de très près avec l'équipe, chiens d'assistance et clients, tout au long du processus. Chaque client doit passer par les diverses étapes du processus de recrutement qui inclut, entre autres, une pré-entrevue, une demande écrite comprenant les recommandations du médecin traitant, une entrevue à la résidence du client et une formation pour les nouveaux clients. Je vous ai parlé de cette histoire il y a quelques jours. Je vous ai même lu un papier sur le sujet. Ce monsieur qui poursuit l'université de Montréal. Et on avait l'impression, nous, que tout le monde en parlait et en parlait bien et que ça ferait peut-être et sûrement même avancer la cause de l'accessibilité dans des lieux comme les universités. Mais monsieur Omar Lacheb, avec qui je vais m'entretenir maintenant, ne pense pas forcément comme ça. Monsieur Lacheb, est-ce que je prononce bien votre nom?
Oui, absolument. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Lacheb. Monsieur Lacheb, vous êtes handicapé, vous êtes en fauteuil roulant.
Oui, je suis une personne quadriplégique suite à un accident de la natation.
D'accord. Et Monsieur Lacheb, racontez-nous d'abord, qu'est-ce qui s'est passé à l'Université de Montréal pour que vous poursuiviez cette institution?
Alors, en fait, l'incident était en 2014. Je me suis rendu pour un examen de la vision à la clinique de vision d'optométrie de l'université. À la fin de l'examen, j'ai cherché une toilette adaptée. La toilette adaptée au rez-de-chaussée était en travaux, était hors d'usage, et il y avait un signe pour monter au deuxième étage pour utiliser les toilettes au deuxième. Mm-hmm. Malheureusement, une fois au deuxième étage, je me suis rendu compte que les toilettes n'étaient pas accessibles. Alors, je me suis dirigé à la bibliothécaire au même étage pour savoir s'il y avait d'autres toilettes. Malheureusement, elle ne savait pas s'il y en avait, ce qui m'a poussé à aller passer du troisième jusqu'au sixième étage sans pouvoir trouver de toilettes adaptées. Je me suis rendu au rez-de-chaussée de nouveau et puis on m'avait dit que peut-être qu'il y aurait des toilettes adaptées du côté des femmes. Mm-hmm. N'étant pas sûr et craignant une situation délicate, je me suis dirigé à un commerce à l'extérieur de l'université, mais c'était trop tard. J'avais déjà les pantalons mouillés.
Oh, non.
Et j'ai décidé de prendre action parce que je trouvais que c'était inacceptable qu'en 2014 ou même en 2017, une personne ait à passer par, ou même une institution publique comme une université, ne puisse pas accommoder les personnes à mobilité réduite.
Oui, non, on comprend ça tout à fait. Hein. Vous savez qu'ici, à Canalem, on se bat beaucoup pour que tout cela change. Mais Monsieur Lacheb, vous avez reçu le montant réclamé, hein, finalement. Vous avez gagné votre cause. Mais êtes-vous satisfait pour autant du jugement ou pas?
En fait, je n'ai pas reçu encore le montant.
Okay.
J'attends toujours la décision de l'Université de Montréal
et
de la Commission des droits de la personne. Mais oui, je suis satisfait du jugement de la commission pour deux raisons. La première, c'est le message. Je trouve que le message est important. Le message qu'on donne aux institutions publiques, c'est qu'il n'y a pas d'excuse valable pour se déroger de leur obligation d'accessibilité universelle, en fait, parce que c'est pas une question juste de toilette. Et le deuxième message, c'est que maintenant, le fait de déroger à cette obligation a un prix. C'est de la même façon que quelqu'un qui déroge ou qui fait une infraction ou qui ne respecte pas le code de la route, il reçoit un ticket ou un billet de la police. Donc,
bien sûr.
À mon avis, le message est important,
Bien sûr.
Ce n'est pas une question monétaire non plus.
Mais Monsieur Lacheb, apparemment, vous n'étiez pas très heureux de la couverture médiatique qu'a reçue cette histoire. Pourquoi?
En fait, un plus ou moins, il y avait un titre un peu sensationnaliste, là, je dirais, de la part du Journal de Montréal, où on a dit qu'un homme handicapé attaque l'Université de Montréal.
Oui.
Je trouve que ce que ça donne comme image, c'est l'image qu'on véhicule un peu de toutes les personnes à mobilité réduite handicapées, que qu'on se plaint, qu'on n'est pas content, et que si on poursuit nos droits et qu'on veut améliorer la cause de l'accessibilité, mais c'est que c'est une frustration et c'est juste qu'on est en train de se plaindre. En
fait. Je comprends tout à fait. Ça aurait peut-être été beaucoup plus délicat de la part de ce journal ou d'autres de dire l'Université de Montréal, inaccessible, par exemple. À ce moment-là, c'est l'université qui aurait... Alors que là, c'est vous, encore une fois, qui êtes, entre guillemets... l'enquiquinant, pour ne pas dire l'emmerdeur.
Voilà, ou le troubleur. Ou,
c'est ça,
ou
exactement.
Le producteur qui cherche,
exactement.
Qui cherche le gain monétaire. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé malheureux. Heureusement, il y a d'autres médias comme vous ou d'autres qui ont par, par exemple, dit que l'Université de Montréal a reçu une amende exemplaire comment dire, pour donner un exemple aux autres institutions et pour respecter l'accessibilité.
Oui, parce qu'on espère que ça va donner un exemple et que même du coup, on pourra s'appuyer sur ce jugement-là, hein, pour faire avancer la cause, quoi, finalement. C'est aussi et surtout, je pense, ce que vous désirez. C'est pas tant l'affaire monétaire, hein, je pense.
Absolument pas. Je trouve que pour la question de dignité humaine, le jugement
Absolument.
monétaire est très important. Mais je trouve que si je suis vraiment quelqu'un qui milite pour l'accessibilité universelle depuis un moment, d'ailleurs l'année dernière, j'ai initié avec des amis un mouvement pour sensibiliser les petits commerces pour être accessibles. Je trouve que
Oui.
le message est important et j'espère que ça va aider à lancer le débat ou qui est déjà qui a déjà lieu. Il y a beaucoup de gens
Bien sûr.
d'associations qui travaillent dessus
Oui.
et qu'on puisse rattraper le retard qu'on a au Québec par rapport à d'autres provinces
Oui.
ou à d'autres pays comme l'Ontario, le Vancouver. Vous savez bien que le fédéral a une loi d'accessibilité qui est en consultation. Et puis ce que j'espère, c'est qu'au niveau du Québec, on puisse en parler puis aller de l'avant peut-être pour une loi sur
Oui,
l'accessibilité provinciale.
exactement. Vous avez bien raison, Monsieur Lachèbe. Dieu sait s'il y a des organismes qui travaillent très, très fort pour cela. Je pense aux Rappliques et à tellement d'autres, hein. Et malheureusement, c'est l'écoute, hein, de la part du gouvernement qui n'est peut-être pas là, mais les cris, eux, ils sont bien là. Vraiment, les SOS pour que ça bouge, ils sont bien là. Alors, je vous remercie, monsieur, d'avoir eu le courage d'avoir tenté ce que vous avez tenté et espérons que ça fasse bouger les choses.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, au revoir, monsieur Lachèbe.
Au revoir.
Par actualité régionale, la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, était de passage en Outaouais dans le cadre de ses 11 consultations à la grandeur de la province. Des représentants de la SAAQ se sont arrêtés au Ramada Plaza de Gatineau afin d'y tenir une consultation publique concernant la sécurité routière. Depuis quelques années, on travaille sur un projet de modernisation du Code de la sécurité routière. Avant de déposer un projet de loi, le ministre souhaitait que l'on fasse une tournée afin de recueillir les avis de la population, a expliqué la relationniste de la SAAQ, Audrey Chaput. La présidente du regroupement des associations des personnes handicapées de l'Outaouais, Monique Beaudoin, a souligné l'importance de raccorder la réglementation relativement au TA, c'est-à-dire au transport adapté. Les règlements sont contradictoires par rapport au transport adapté. C'est voulu qu'il déplace la personne de porte à porte, mais lorsque le TA s'immobilise à la porte, il reçoit des constats d'infraction, de signaler Madame Beaudoin. Dans le soleil, d'après un papier de Patricia Cloutier, de plus en plus d'élèves québécois réussissent à mettre la main sur un diplôme d'études secondaires. Au Québec, le taux de diplomation est en hausse d'environ 1%, atteignant presque 80%. C'est ce que révèlent les chiffres de l'année scolaire 2014-2015, rendus publics mercredi par le ministère de l'Éducation. Depuis 7 ans, le taux de diplomation au Québec est en constante hausse. Il était à 72% en 2008-2009. L'écart entre les garçons et les filles reste toutefois important. Les filles réussissent à obtenir leur diplôme après 7 ans au secondaire, dans une proportion de 84%, alors que chez les garçons, ils ne sont que 74% à faire de même. Les élèves handicapés en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage continuent de traîner de la patte avec un taux d'obtention de diplôme de 48,3%. Ce taux est toutefois en augmentation par rapport aux années précédentes. Et puis une petite mise en garde qui nous vient de la Fondation Réfort, écrit Claude Thibaudeau dans la nouvelle. Raymond Fortier de la Fondation Réfort de Victoriaville tient à mettre en garde la population et les commerçants concernant un homme qui, depuis plusieurs mois, agit, prétend-il, comme récupérateur pour l'organisme. C'est un arnaqueur qui se présente comme récupérateur pour notre fondation. Les commerçants nous ont avisés, précise M. Fortier, insistant pour dire que depuis 2005, personne, à part lui et sa conjointe, n'est attitré comme récupérateur pour la Fondation Réfort. Monsieur Fortier lance de nouveau l'invitation aux commerçants et à la population de continuer à apporter du matériel informatique et électronique. Notre organisme, rappelle-t-il, vient en aide aux enfants malades et handicapés. On peut contacter Monsieur Fortier simplement par fond en écrivant un courriel à fondationrefort@hotmail.com. Elle est de l'Association québécoise des personnes de petite taille. Ce n'est pas la première fois qu'on s'entretient ensemble. C'est Madame Karine Villeneuve. Bonjour, Madame Villeneuve.
Oui, bonjour.
Est-ce que c'est avec vous? Je ne sais plus si c'est avec vous, avec une autre personne que j'avais déjà.
La dernière fois, c'était avec ma collègue Nathalie Labelle.
Ah, c'est pour ça que tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi? Je sais qu'on en parle, mais bon, d'accord. Eh bien, soyez la bienvenue, Madame Villeneuve. Donc, je rappelle que vous êtes de l'Association québécoise des personnes de petite taille, et si on vous parle aujourd'hui, c'est pour que vous nous présentiez un mini-documentaire médical sur le nanisme. Ça s'appelle « Le nanisme, un handicap à prendre au sérieux ».
Exactement. Il y a déjà plus d'un an, on avait le projet de faire soit des capsules vidéo ou cours documentaires pour avoir un outil promotionnel sur le nanisme. Alors là, c'est enfin le jour du lancement. Alors, c'est le 23 février prochain qu'on
D'accord.
va lancer ce court documentaire qui fait à peu près 23 minutes sur le nanisme, une condition qui est toujours, bien sûr, méconnue. Puis, en fait, le titre, quand on parle de le nanisme, un handicap à prendre au sérieux, c'est justement pour expliquer le caractère sérieux de la condition, qui a toujours quand même des conséquences sur la santé, la vie quotidienne et la participation sociale des gens qui
vivent. Bien sûr. Et je me souviens qu'on en avait parlé d'ailleurs en profondeur avec Madame Labelle, justement, à ce moment-là. Il sort, vous dites, le 23 février. On pourra le voir où?
Alors, il sera disponible sur notre site Internet, qui est www.aqppt.org. Dans la section visiteurs, il y aura une section vidéo. Et à ce moment-là, les gens vont pouvoir le visionner.
D'accord. Problème. Alors, je voudrais juste rappeler aux personnes qui nous écoutent que AQPPT, pour Association québécoise des personnes de petite taille.
Hein?
Bon, écoutez, donc, lancement le 23 février. Qui a réalisé?
Alors, c'est Alexandre Ruffin, qui est un réalisateur qui a fait beaucoup de courts documentaires jusqu'à maintenant, avec qui on a approché et qui a réalisé le projet. On est quand même très fiers, là, hâte de le présenter au public.
Et alors donc, c'est un documentaire qui va permettre de sensibiliser, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a un petit synopsis? Est-ce qu'il y a un petit scénario,
là-dessus? C'est vraiment, quelques participants, autant familles et adultes parmi nos membres qui ont participé, qui sont interrogés, là, c'est vraiment... Et on avait beaucoup de contenu très riche.
Oui.
Et aussi, c'est quand même un document quand les gens vont pouvoir le voir, qui est quand même, on peut se reconnaître même si on n'a pas la condition. On y aborde quand même la différence et comment aussi voir le handicap comme quelque chose de créatif. Hein.
Oui.
Oui, on vit des limitations. On les nomme, mais on veut aussi, avec ce documentaire-là, ouvrir les gens sur qu'il y a des solutions.
Oui. Donc vous encouragez les gens qui vivent dans cette condition-là à dire, attendez, la vie ne s'arrête pas là.
Exactement.
Si je vous entends bien.
Oui.
Bon.
Et aussi le public à voir le handicap de façon non pas négative, que ce soit triste, mais comme un élément plus créatif.
Oui, bien sûr. Dites-moi, ça mériterait, un documentaire comme celui-ci mériterait certainement d'être proposé dans des festivals qui sont consacrés justement à des documentaires ou à des courts-métrages?
Ben, on va voir avec le réalisateur où on peut peut-être l'inscrire. Là.
C'est ça, ce
qu'on veut faire beaucoup de promotion. Là, quand il sera lancé, on veut approcher des producteurs, d'autres des festivals, d'autres endroits. Là. On veut vraiment le diffuser le plus possible. Il est aussi sous-titré en anglais directement.
Alors,
on veut vraiment ouvrir partout dans le monde.
Bien sûr, bien sûr. Le lancement, donc, aura lieu le 23. Vous allez faire ça sur invitation ou est-ce qu'il y a des gens?
Oui, c'est sur invitation. C'est à nos bureaux, dans un genre de 5 à 7, de 17h à 20h.
D'accord.
La projection est à 18h. S'il y a des auditeurs qui pourraient être intéressés, ils n'ont qu'à nous contacter.
C'était ce que je voulais savoir.
Pour s'inscrire, parce que nous, on a vraiment besoin, les gens doivent s'inscrire.
Oui, pour le nombre de places, hein, j'imagine.
Oui, exactement, pour participer.
Mm-hmm.
Sinon, on invite les gens à aller, dès le 23, à aller le voir, le visionner sur notre site Internet.
Sur le site Internet, dont je vais tout de suite, Mme Villeneuve, rappeler le nom. Donc, c'est aqppt.org. AQPPT étant l'acronyme de l'Association québécoise des personnes de petite taille.
Oui, section vidéo.
Section vidéo, d'accord. Eh bien, merci beaucoup, Mme Villeneuve. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous souhaite une belle réussite pour le lancement de ce documentaire et pourvu qu'il soit vu par le plus grand nombre de personnes.
Nous l'espérons.
Bonne fin de journée, madame.
Merci beaucoup.
Au revoir. Il y en a qui sont prêts à tout pour la bonne cause. Une dizaine de pompiers de Saint-Roch de Richelieu monteront les 1125 marches de la Tour de la Bourse à Montréal, vêtus de leurs lourds habits, afin de récolter des fonds pour Dystrophie musculaire Canada et de parrainer le petit Liam Desfossés. William Leslie Truman est l'instigateur de cette collecte dont les fonds seront distribués à la recherche de la lutte contre la dystrophie musculaire. Il espère récolter près de 5 000 $ d'ici le 2 juin, jour où il relèvera le défi gratte-ciel en compagnie de ses coéquipiers vêtus de leur tenue de combat. Pour M. Truman, s'impliquer auprès de Dystrophie musculaire Canada est devenu une évidence alors que la maladie l'a touché de près. Son frère est décédé il y a près de 11 ans de cette maladie. Les pompiers parraineront Liam Desfossés, atteint d'amyotrophie spinale de type 1, de façon symbolique. Ce parrainage a pour but de créer des liens entre les pompiers et les gens touchés par cette maladie. M. Truman profitera également de cette collecte de fonds pour partager les mésaventures du jeune garçon sur le site du défi gratte-ciel afin de démystifier la maladie. La collecte de fonds se réalisera principalement par le biais du site internet www.defigratteciel.com et par les réseaux sociaux. Les fonds, je vous le rappelle, seront remis à Dystrophie musculaire Canada qui se chargera de les redistribuer à la recherche. C'était d'après un papier de Sarah-Ève Charland. La solidarité toujours au cœur de l'action du Québec en Haïti. Au terme de sa mission en Haïti à l'occasion de l'assermentation du nouveau président, Jovenel Moïse, la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Dominique Anglade, a souligné le travail de différents organismes québécois des milieux de l'économie sociale et de la coopération qui œuvrent dans ce pays depuis des décennies. La ministre Anglade a pris part à une rencontre avec des représentants des 6 organismes québécois et de leurs partenaires haïtiens qui ont bénéficié de l'aide exceptionnelle de 500 000 $ accordée par le gouvernement du Québec à la suite du passage de l'ouragan Matthew en octobre 2016. Réunis dans les locaux d'Oxfam Québec en Haïti pour présenter à la ministre Anglade les résultats des interventions d'urgence réalisées ces derniers mois en réponse aux besoins exprimés par leurs partenaires haïtiens, les participants ont permis à la ministre d'assurer un suivi des actions mises en œuvre par la Croix-Rouge canadienne, Division du Québec, le Centre d'études et de coopération internationale, le CECI, Handicap International Canada, la Fondation Paul-Gérin-Lajoie, SUCO et Oxfam Québec, grâce au soutien gouvernemental accordé. En plus des 6 interventions d'aide d'urgence soutenues en 2016 par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, le MRIF, à la suite du passage de l'ouragan Matthew, 10 projets de développement financés par le Programme québécois de développement international sont en cours de réalisation en Haïti. Par l'entremise du programme Québec sans frontières, 18 jeunes Québécois vivront une expérience de solidarité internationale en Haïti en 2017. Et enfin, depuis la création de ces deux programmes respectivement en 1997 et en 1995, plus de 18,7 millions de dollars ont été alloués à des projets réalisés en Haïti, ce qui en fait le plus important pays bénéficiaire des programmes de solidarité du MRIF. C'était d'après le cabinet de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. La sextuple médaillée paralympique Michelle Stilwell a annoncé sa retraite mercredi. Stilwell, qui a remporté 5 médailles d'or et 1 d'argent dans des épreuves d'athlétisme en fauteuil roulant lors des Jeux paralympiques de Pékin, de Londres et de Rio. L'athlète, originaire de Winnipeg, détient par ailleurs les records sur les distances de 100 et 200 mètres dans la catégorie T52. Stilwell siège présentement à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique. Elle occupe les fonctions de ministre du Développement social au sein du gouvernement provincial. Et pour finir, quelques rafales. Activités en santé mentale, les ateliers, formations et activités du Campagnol, un groupe d'entraide et milieu de vie en santé mentale, permettent aux gens de parler de leur expérience de vie pour ainsi trouver leurs propres solutions et ce, sans jugement. Alors, à venir à 13h le 13 février, modèle à coller, casse-tête 3D. Le 14 février, un atelier de gestion autonome de la médication. Le 15 février, un atelier de gestion des émotions. Le 16 février, une activité ludique pour la Saint-Valentin. Le Campagnol est ouvert du lundi au jeudi de 8h à 16h. Pour en savoir un petit peu plus, www.lecampagnol.com ou sinon par Facebook, tiens, encore plus simple, Le Campagnol. Le souper de la FADOC Saint-Rémy, le club FADOC de Saint-Rémy invite ses membres à son souper de la Saint-Valentin le 15 février à 18h au coût de 22 dollars par membre et 27 dollars pour les non-membres. Souper chaud et froid, une consommation gratuite et de la danse pour les personnes ayant participé au souper. On peut rejoindre Janine au 454-9848, 454-98-48. Et enfin, vous prenez soin d'un proche âgé à domicile, vous aimeriez connaître les ressources disponibles dans la région ou obtenir du soutien, eh bien le Centre de bénévolat de la Rive-Sud offre des rencontres individuelles ou de groupes pour soutenir les aidants naturels dans leur rôle. Informations, références, formations, soutien psychologique, conférences et café-rencontres. Pour information, on contacte Pascal Le Bégin dans le 450 au 659-9651. 450-659-9651. Voilà ce qui met un terme à cette édition des Paractualités en ce 9 février 2017. Merci à mon équipe et merci à vous. Bonne fin de journée.